Lamar a-t-il entendu au cours de sa carrière cinématographique cette annonce lancée par le metteur en scène ? Moteur. Et la réponse du caméraman ? Ça tourne. Puis, une voix en écho qui clame le titre du film et le numéro du plan. 226, prise 1, clap. Des injonctions, ou plutôt un vrai rituel, des paroles mythiques propres au 7e art. Puis vient toujours l'annonce du réalisateur, celle qui accélère soudain le rythme cardio de toute l'équipe. Silence partout. Go, allez, vas-y Gilles, action. Et c'est bien une suite ininterrompue d'actions qui va rythmer la vie de Gilles Delamarre. Une carrière qui se brisera soudain en pleine gloire. Un palmarès incroyable de rôles où il n'a cessé de se surpasser. Où lui, l'aristocrate, va donner ses lettres de noblesse à la cascade dans le cinéma de l'Hexagone et même d'ailleurs. Il va risquer sa vie dans plus de 40 films. Va régler les cascades et les effets spéciaux d'une vingtaine de succès. Pas mal de titres célèbres sont signés Gilles Delamarre pour les scènes dangereuses. Cela va du jour le plus long aux gendarmes de Saint-Tropez, des Fantomas au Cornio. Puis côté Belmondo, l'homme de Rio et les tribulations d'un Chinois en Chine. Mais pas que. Alors action, cher Gilles Delamarre. Nous sommes le 25 août 1944 à Paris. Il est près de midi et c'est l'heure H de mon histoire. Capitale est enfin libérée de l'occupation allemande. Des images qu'on a vues dans tous les documentaires en noir et blanc, des cocktails Molotov lancés sur les chars nazis, des francs-tireurs, des FFI, le chaos de la vengeance. Ce qu'on ne voit pas dans les archives cinématographiques, c'est un jeune homme qui n'a pas encore 20 ans, qui s'est engagé 2 ans plus tôt dans l'armée d'armistice envoyée en Afrique du Nord. Puis, il est renvoyé dans ses foyers. Bon, bien sûr, il tombe sous la réquisition du travail obligatoire en Allemagne, qu'il refuse en se cachant habilement et en entrant dans un réseau de résistance. Et c'est au sein du corps franc-martin, au Batignolles, qu'il participe en ce mois d'août 44 à la libération de Paris. Bon, jusqu'ici, allez-vous me dire, rien ne l'a guère préparé à jouer les intrépides devant les caméras. Ben, c'est mal le connaître. Lors de ses premières études, il a déjà de bonnes notes, mais surtout en sport. Il monte à cheval à 11 ans, fait de l'escrime, de l'athlétisme, du rugby, de la natation, du plongeon. Les années 42-44 lui permettent de se muscler davantage, de prendre goût à l'effort physique intense, de faire pas mal de sports de combat, attiré par le close combat et le judo. Et puis, dans les interstices de l'histoire, il commence à tracer sa voie future. Il abandonne des études de droit pour faire ses débuts comme trapéziste dans un cirque. Mais après tout, comment se nomme-t-il ce jeune sportif âgé d'à peine 20 ans à la Libération ? Gilbert-Yves Delamarre de la Villenaise de Chenevara. Et je sais, c'est long, mais c'est son titre de noblesse normande. Né à Paris le 14 octobre 1924. À la fin de la guerre, il prépare, sans le savoir, son avenir. Il participe à la campagne de France, puis d'Allemagne, dans les corps francs, où il parfait son corps d'athlète en pratiquant le sport de combat à outrance. En décembre 1945, il est démobilisé. Un peu déçu d'ailleurs, car il a pris goût à l'action. Il aime déjà sentir monter en lui ce besoin de se dépasser, de courir vers le risque. L'ivresse du risque à condition de le calculer tout en jouant son va-tout. Le voilà donc en 1945, les bras ballants, arrêté en pleine action, comme figé dans l'arrêt sur image d'un film. Et le cinéma, me direz-vous ? Il arrive. Mais d'abord, il faut passer par l'épisode de la Jeep. Cette Jeep américaine qu'il s'achète à tout hasard avec sa prime de démobilisation. Une Jeep. Mais pourquoi faire ? Et c'est la question que, justement, lui aussi se pose. Nous sommes juste après-guerre et les temps sont difficiles. Avec sa précieuse Jeep, il se fait déménageur, vendeur de cosmétiques qu'il bourre dans son véhicule. Ouais, pas très rentable tout ça. Sa mère lui conseille alors de ramasser tout ce qu'il peut, de les entreposer dans sa Jeep et de faire les marchés, les foires. Il vend ou essaie de vendre des vêtements d'enfants, des barboteuses. Ouais, pas génial non plus. Un jour, le voici en Bretagne avec ses layettes, du côté de la ville de Dinan. Et en parlant avec des types sur le marché, il apprend que ces gars bien baraqués tournent un film historique dans la ville et ses environs. Le film a pour titre « Du Guesclin » et pour réalisateur un certain Fernand de la Tour. C'est pas un cinéaste qui laissera une trace illustre dans l'histoire du cinéma français. Mais qu'importe pour le jeune Gilles. Ce qui l'intéresse, c'est le producteur du film qui, lui dit-on, cherche des figurants. Oui, mais des figurants à cheval. Cela fait tilt aux oreilles de Gilles. Ah bah oui, pourquoi pas. Cette opportunité va définitivement tracer son existence, sa carrière et sa renommée à venir. Alors voilà donc notre jeune homme au XIVe siècle, enfin du moins au cinéma. Le film pour lequel il est engagé raconte l'histoire héroïque d'un grand personnage de l'histoire de France, Bertrand du Guesclin, grand homme de guerre, connétable de France et figure légendaire de la guerre de Cent Ans à l'égal de Jeanne d'Arc. Il est né près de Dinan, en Bretagne, ce qui explique que le film y est tourné en décor naturel. Priorité bien sûr aux scènes de combat, aux tournois, aux chevauchées héroïques. Du Guesclin est joué par Fernand Gravé, une célébrité à l'époque venue du théâtre et du music-hall. Une vedette à l'instar des Charles Vanel, Michel Simon, Rému, Gabin et tant d'autres. C'est une époque du cinéma français qui voit soudain l'interprète principal devenir la signature d'un film. Un homme comédien, un personnage avec des états d'âme. Et c'est lui que notre jeune Gilles Delamarre va côtoyer dans ce film. Il est engagé, on lui donne une armure, une monture et un petit salaire de figurant à cheval. Oui. Mais la chance semble avec lui. La doublure de Fernand Gravé est soudain indisponible. La production demande d'urgence quelqu'un capable d'effectuer non pas des cascades, car le mot n'est guère encore utilisé en France, mais des scènes violentes de combat. Et qui, à votre avis, répond présent ? On lui explique. Il faut qu'on te voie tuer un cheval qui se cabre devant toi. Tu te glisses sous son poitrail et tu le poignardes, compris ? Oh, il a compris. Il tourne la scène. Tout se passe bien pour lui et surtout pour le cheval. Le lendemain, le réalisateur lui demande encore plus. Désarçonner un cavalier, puis c'est l'escalade. On lui propose de sauter sur un cheval qui passe au galop, d'abattre son cavalier et de tomber avec lui. Sitôt dit, sitôt fait. Et refait, car on multiplie les prises. Gilles devient une attraction sur le plateau. Il est apprécié, mieux payé. Tout ça parce qu'il a l'habitude des chevaux, parce que son passage dans l'armée l'a accoutumé au maniement des armes blanches. On lui demande d'où vient sa pleine forme. 7 ans de judo et une ceinture noire. De fil en aiguille, le voilà devenu la doublure officielle de Fernand Gravé pendant 3 mois, jusqu'à la fin du tournage. Sa carrière est désormais définitivement tracée. Il va devenir le spécialiste des chutes de cheval, des cascades équestres, des duels et des tournois. Oh, à cette époque, le bien-être animal n'est pas du tout respecté lors des tournages. On fixe un câble aux pattes antérieures, on cache ce câble sous la selle, puis on le fixe à un poteau placé à une 20aine de mètres en arrière. On lance la pauvre bête au galop et soudain, elle est stoppée net quand elle arrive au bout du câble. Très souvent, elle se casse les pattes ou se rompt la colonne vertébrale et se tue. Dans certains films, le cavalier, une fois arrivé à l'endroit prévu pour la chute, loge même une balle dans la tête de sa monture. Dans les westerns à Hollywood, on utilise une autre barbarie. Un système de ressort qui ramène d'un coup la phalange du cheval sous son poitrail et lui fait faire un superbe roulé-boulé qui peut lui être fatal. Dans le meilleur des cas, le cascadeur doit penser à 2 choses. Prévoir son propre atterrissage et tordre légèrement la tête de son destrier pour éviter qu'il ne se brise la colonne vertébrale. Mais très vite, déjà à l'époque du premier tournage. Gilles monte des chevaux dressés pour chuter. Certains même tombent sur un coup de sifflet. C'est dans ce contexte que Gilles étudie le rapport entre le cascadeur et sa monture, entre le cavalier, le réalisateur et surtout le caméraman. Gilles, film après film d'épopée, va innover. Il va faire de la cascade cavalière une véritable profession, un art visuel et sportif. Il va inventer, codifier avec inventivité, respect et calcul du risque. Et déjà dans le même but. Penser au résultat visuel, à la qualité du plan et de la séquence et au plaisir du futur spectateur. Cela vaut surtout dès ses cascades dans Du Guesclin, pour réaliser les chutes en armure. On l'imagine, ce sont les plus difficiles. Gilles le comprend dès les premières prises. Exemple, une scène de tournoi. D'abord, il faut s'habituer à chevaucher avec une armure lourde et peu pratique. Ensuite, celui qui doit tomber sous le coup de la lance doit être filmé de face pour qu'on ne voit pas le filin métallique attaché dans son dos qui le relie à un pieu et va provoquer artificiellement sa chute. Gilles comprend très vite qu'il ne peut tenir sa monture qu'avec la main droite. Mais en même temps, il faut viser son adversaire avec une lourde lance qui fait 4 mètres de long et bien visée pour le toucher à un endroit précis à la hauteur du bouclier. Or, pour bien viser, il faut une large vision. Hélas, le cascadeur n'a que la petite fente de son home, un home qui a tendance à avoir la bougeotte quand on chevauche. Autre problème qu'il faut résoudre. Au Moyen-Âge, les chevaliers utilisaient des montures de combat qui fonçaient inexorablement et suivaient la lice jusqu'au bout. Les chevaux modernes que Gilles utilise, eux, s'écartent instinctivement au moment du choc entre les deux adversaires. Au moment de l'impact, le vaincu est littéralement arraché à sa selle par le câble. Mais il doit gérer sa chute avec son armure de ferraille aux articulations coupantes comme des rasoirs. Comme Gilles le dira, ce genre de scène, ça se court. La méthode mise au point par Gilles finira par sécuriser ce genre de séquence et la rendre plausible. Il se prépare minutieusement, se protège le corps là où il est en contact direct avec une articulation de l'armure. Il reconnaît longuement le terrain, apprend à connaître sa monture, répète inlassablement l'action, la chronomètre au dixième de seconde près. Preuve de son professionnalisme, à Versailles, il exécute 14 chutes de cheval en armure, sans une égratignure. Quand on lui demande son secret, il répond bien modeste, c'est pas du courage, c'est un calcul de prise de risque. Il a compris qu'il ne s'agit nullement d'un métier de casse-cou. Pourtant, dès cette année 1948, il va créer avec quelques autres un groupe nommé Club des casse-cou. C'est donc pas un hasard s'il devient très vite un cascadeur recherché par beaucoup de cinéastes, qui vont le désigner comme le prince de la cascade. Surtout que, le temps passant, lui et ses copains travaillent en dialoguant avec les réalisateurs. Ils vont leur imposer leur technique, car les metteurs en scène d'alors sont persuadés qu'on peut tout truquer au cinéma. Gilles et ses amis vont leur prouver qu'il est possible de faire vrai à la seule condition de savoir bien le faire. Après les chevaux, son prochain défi, ce sera le tournage des accidents de voiture. Mais de vrais accidents. Et là aussi, il va être novateur. Chute, choc, crash, collision, tonneau. Voilà son prochain programme. Son prochain challenge, repenser totalement la réalisation des accidents de voiture au cinéma. Oui, mais des vrais, hein. Tout est en fait à inventer. Jusque-là, comment filmait-on un accident de voiture? Premièrement, la caméra cadrait la voiture en dérapage. Deuxièmement, un gros plan du visage épouvanté du conducteur avec un bruitage effrayant de ferraille et de collision. Troisièmement, un plan général où l'on revoyait la voiture sur le toit ou couchée sur le côté, toute cabossée. Parfois, une roue qui tourne toute seule ou de la fumée et un début d'incendie. L'accident était suggéré, pas plus. Gilles et ses acolytes vont proposer de véritables accidents, avec de vraies personnes, avec de vraies collisions. Ce souci de réalisme, il l'envisage comme une honnêteté à l'égard du spectateur qui verra le film. Il refuse qu'on murmure dans la salle. Bah, c'est du cinéma, c'est du chiqué. Non, Gilles, lui, veut du cinéma, du vrai. D'abord, il comprend qu'il lui faut choisir lui-même son véhicule de cascade, le préparer. Il a une préférence pour des américaines, puissantes et solides. Pas mal de chevaux sous le capot pour passer de 0 à 100 km par heure rapidement. Important aussi, la boîte de vitesse. Mais le travail est parfois plus simple avec une automatique. Pour faire du deux roues, c'est-à-dire rouler verticalement sur deux roues, il faut une caisse, comme une Ariane, bloquer le différentiel, gonfler les pneumatiques à 6 kg et un bon tremplin. Rouler sur deux roues est une bonne école de contrôle de son équilibre et de ses réflexes. Et puis, farceur comme il est, il module. Passe verticalement entre deux autres voitures ou deux poteaux, ou même une porte étroite. Il essaie tout. Il appelle ça « passer sur la tranche ». Mais il n'y a pas de risque non calculé chez lui. Avant le tournage, il faut ouvrir les vitres et enlever la custode arrière pour pouvoir s'évader en cas de broiement du véhicule ou de blocage des portières. Et le pare-brise, me direz-vous. Il est dangereux en cas de choc. Pas du tout. Quand Gilles réalise l'accident en vrai, il constate que, suite au choc frontal, le pare-brise part vers l'avant, bien souvent d'une seule pièce. Je vous ai parlé aussi de la minutie avec laquelle Gilles prépare son véhicule. Comment fait-il ? D'abord, on doit enlever tout ce qui coupe et perfore. Boutons, poignées de portière, rétroviseur, etc. On recule le siège au maximum et on boucle une bonne ceinture de sécurité 3 points, diagonale et abdominale. Puis, il pense à son habillement de protection. Une coudière, des genouillères, des gants, une calotte en plastique dissimulée dans les cheveux, des lunettes enveloppantes, en plastique aussi. Par prudence, encore. Reste un gros risque, l'incendie. On enlève la batterie et on roule sur la dynamo pour éviter les courts-circuits. On supprime le réservoir que l'on remplace par un plus petit de 5 litres. Les pneus sont gonflés à bloc, durs comme du bois. Et si le réalisateur exige un véritable incendie du véhicule, me direz-vous ? Eh bien, tout ça est étudié. 2 ou 3 bouteilles d'essence sont placées à l'avant du véhicule, entre la calandre et le radiateur. À l'impact, le ventilateur va creuser un trou dans le radiateur. Ça provoque des étincelles qui enflamment l'essence des bouteilles. Et le tour est joué. Ça flambe. Avec 3 litres, on provoque une fameuse explosion qui passe parfaitement à l'écran. Mais la conduite. Gilles a tout calculé, répété, repéré. Sa position d'abord. Bien assis, ceinturé et collé au siège, les mains en position 9h15, au top, il lance les chevaux. À l'instant du choc, quand la bête lâche son grand cri, surtout, restez le plus cool possible, décontracté. On pousse les 4 membres en sens inverse de celui de la collision. Ainsi, on fait corps avec la voiture. Les yeux grands ouverts, bien sûr. Après l'impact, dès que la voiture a stoppé, il largue sa ceinture de sécurité, sort par une fenêtre ou la custode arrière, puis se précipite vers le réalisateur, interroge le cadreur. La prise est bonne ? Hésitation ? Ah, alors on la double. Avec une autre caisse, bien entendu. Son perfectionnisme, il va le prouver lors du tournage de Fantomas en compagnie de Jean Marais, avec qui d'ailleurs il louera une amitié indéfectible. Tout le monde se souvient du double rôle joué par l'acteur. D'abord, en tant que journaliste aux côtés de Mylène de Mongeau, et en même temps, sous le masque terrifiant de l'inquiétant maître de l'effroi. Pour les 2 épisodes, le réalisateur André Hunebelle a engagé Gilles Delamarre en tant que responsable des effets spéciaux. Ce sera aussi pour Gilles l'occasion de rencontrer et de recruter un as du motocross qui deviendra son élève puis son successeur, le fameux et célèbre Rémi Julien. Voici donc Gilles à la fois acteur, cascadeur et régisseur des multiples scènes d'action des deux Fantômas. Poursuite en voiture, mais aussi en moto. L'une d'elles restera mémorable, une véritable séquence d'anthologie. Le cinéaste André Hunebel explique à Gilles. T'es un motard de la police lancé à la poursuite de la Cadillac de Fantômas. Au moment où t'es sur le point de la rattraper, la Cadillac déverse sur la route une flaque d'huile. Tu vois, un petit peu comme dans les James Bond. Toi, t'arrives à pleine vitesse dessus. Tu glisses, dérapes et tu perds le contrôle de ta moto. Tu dois vraiment t'envoler en l'air et tu vas percuter un talus de plein fouet. De l'autre côté, tu plonges dans un ravin. Voilà. Tu t'envoles. C'est littéralement ce que Gilles va faire. Le perfectionniste qu'il est va montrer à Hunebel tout son savoir-faire. D'abord, c'est lui qui choisit sa route. Une petite route dont il connaît les contours. Une route de crête surplombant la Seine, pas très loin de Mantes-la-Jolie. Premier souci de Gilles, le lieu doit être beau pour les prises de vue. Il pense déjà au caméraman et à la beauté des images. Ce sont des à-côtés qui font de lui tout autre chose qu'un simple cascadeur. Puis viennent les repérages. Il étudie soigneusement, mètre par mètre, la trajectoire qu'il doit suivre. Il la montre longuement au metteur en scène, lui indique les endroits parfaits pour placer ses caméras sans risque pour les opérateurs. Il se soucie de l'éclairage, de la répercussion du bruit pour l'ingénieur du son. Hunebel est bluffé quand il lui déclare « La plus belle cascade du monde sera zéro s'il n'est pas possible de bien la filmer ». Au guidon de sa puissante moto kaki frappée de